conférencier de ce soir, donc c'est André Sirota, né en 1946. Il est docteur en médecine, directeur des sciences du vivant au CEA. Pour son parcours, 1975, ancien interne des hôpitaux de Paris. Depuis 1984, il est chef du service hospitalier Frédéric Joliot du CEA à Orsay. Il est également enseignant de biophysique et médecine nucléaire à la faculté de médecine et professeur des universités et praticien hospitalier à la faculté de médecine de Bicêtre de l'université Paris-Sud. Pour ses spécialités, André Sirota travaille sur le développement des méthodes d'imagerie fonctionnelle non invasive chez l'homme, utilisant notamment la tomographie par l'émission de positons, la gammatomographie et la résonance magnétique nucléaire. Pour ses titres, il a été également président de la commission spécialisée de l'INSERM, biophysique, technologie médicale et chirurgicale. Il est membre du steering group sur les sciences biologiques et médicales d'ESFRI, c'est l'European Strategy Forum on Research Infrastructure de l'Union européenne. Il a écrit de nombreux articles dans les revues nationales et internationales. Je lui cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi il y aura un débat avec le public. Merci.
Merci bien. Donc, cette conférence ce soir concerne la physique et la médecine, et il est clair que je ne peux pas, je vais vous montrer pourquoi, parler de toutes les interactions entre la physique et la médecine, et j'ai donc choisi un sous-thème qui est l'imagerie médicale. Et en fait, même dans le cadre de l'imagerie médicale, j'ai choisi de me concentrer sur, je pense, qui est le plus exemplaire de cette imagerie médicale, qui est la neuroimagerie fonctionnelle, c'est-à-dire l'imagerie du cerveau, mais non pas de voir le cerveau au sens anatomique, mais de voir comment fonctionne le cerveau, c'est-à-dire quand vous êtes en train de m'écouter, de regarder l'écran, de voir ce qui se passe dans le cerveau. Alors, pourquoi il est difficile de parler en peu de temps de physique et médecine ? C'est parce que tous les champs de la physique sont impliqués dans la médecine. Je vous montre quelques exemples. L'électromagnétisme. Je vais vous parler de l'imagerie avec les rayonnements gamma, les X, mais aussi dans le proche infrarouge. On fait de la radiothérapie, on utilise, comme vous le savez, les lasers, l'électrocardiographie, l'électroencéphalographie. Aujourd'hui, je vous en montrerai un exemple, la magnétoencéphalographie. Les ultrasons, tout le monde connaît l'utilisation quotidienne. Il y a des millions d'examens faits avec des ultrasons tous les jours. Je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, dans la mesure où les ultrasons sont réfléchis par l'os, et donc, ce n'est pas la méthode idéale pour voir le cerveau, à l'exception, disons, du nouveau-né, où là, on peut voir le cerveau de façon non-invasive. Mais évidemment, la physique nucléaire, la physique des particules, je vous en parlerai longuement dans l'imagerie, utilisant des électrons, les positons, la thérapie, qui n'est pas le sujet ce soir, mais on pourrait aussi parler de la mécanique des fluides, les écoulements sanguins, la rhéologie, la pression sanguine, la physique de la matière condensée, je pourrais multiplier les exemples. Donc, j'ai choisi de vous parler, vous voyez, c'est aussi bien, ça remonte, c'est pas d'aujourd'hui, à Descartes et la vision, Nernst et les potentiels de membrane, Harvey et la circulation, Darcy, la loi de la filtration sur les fontaines de Dijon. Mais pourquoi peut-on lier physique et médecine ? Eh bien, c'est parce qu'on va se baser sur un postulat qui va être important, notamment pour la compréhension de ce que je vais vous dire sur le cerveau. C'est que les composants du corps, finalement, sont des objets physiques et peuvent donc être étudiés, quantifiés, manipulés, comme le font les physiciens avec des objets physiques inertes. Ce que je voudrais vous montrer aussi aujourd'hui, c'est que si jusqu'il y a encore une dizaine d'années, la biologie, ça pouvait se faire sur le coin d'une paillasse, ça peut toujours se faire et on peut faire de très grandes découvertes avec peu de moyens, néanmoins, il y a aujourd'hui, avec notamment le séquençage du génome, avec l'imagerie, avec tous les outils de la post-génomique, le développement d'une biologie lourde, comme il y a une physique lourde qu'utilisent les grands accélérateurs, le CERN à Genève, et puis une physique plus légère, qui est tout aussi honorable que la physique lourde. Eh bien, il y a aussi une biologie lourde. Je vais vous montrer que ces méthodes d'imagerie qui permettent de voir le fonctionnement du cerveau nécessitent un outillage très lourd. Et puis, ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est que le défi actuel des sciences du vivant, c'est que les sciences du vivant, ce n'est plus aujourd'hui de la biologie ou de la médecine, c'est de la biologie, de la chimie, de la physique, des mathématiques, de l'informatique. Et c'est ce qu'on appelle cette science de la complexité qui fait l'objet actuellement de grands projets au niveau européen et au niveau international. Mais je voudrais encore aller un peu plus loin. Pour en arriver au cerveau, en rappelant quelque chose qui est moins connu de ce qu'écrivait Freud en 1895 dans l'esquisse d'une psychologie scientifique, où il pensait, il a toujours cru ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire, que les mécanismes cognitifs des phénomènes mentaux, normaux et pathologiques pourraient s'expliquer par l'étude rigoureuse des systèmes cérébraux. Et ce qu'a permis l'imagerie depuis une quinzaine d'années, j'ai mis quelques titres d'articles qui ont été publiés dans les meilleures revues, Localisation des opérations cognitives dans le cerveau humain, Science 1988, Lier le cerveau et l'esprit pour l'étude des maladies mentales, l'imagerie de l'esprit, l'imagerie d'une science de l'esprit, ou encore plus récemment, l'investigation de l'engagement émotionnel dans le jugement moral, et tout ceci étudié par des techniques d'imagerie dont je vais vous parler maintenant. Alors, pour expliquer ça et voir comment ce cerveau peut fonctionner, il faut quand même en revenir à l'origine et donc à la physique. Et c'est tout à fait édifiant parce que, voyez qu'en 1895, le 8 novembre, les dates sont importantes, Röntgen met en évidence une nouvelle sorte de rayonnement. Et 6 semaines plus tard, le 22 décembre, il fait la première radiographie de la main de sa femme. Autrement dit, la radiologie, elle est née avant même qu'on connaisse la nature de ce rayonnement inconnu. Il a fallu 6 semaines pour qu'il ait cette image de la main de Madame Röntgen. Le 28 décembre, il envoie la première communication. On doit considérer que les rayons X proviennent de la zone de la paroi du tube de verre qui est la plus fluorescente. Alors, la radiologie, elle est née, mais ce que l'on voit, c'est l'os. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est comment on est parti de là pour arriver au fonctionnement du cerveau tel qu'on pourrait le voir lorsque vous êtes en train de m'écouter. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le 20 janvier, vous voyez que tout ceci se passe dans un délai de 2 mois, Henri Poincaré montre la première radiographie que lui a envoyée Röntgen, car les choses circulaient très vite à l'époque, en dehors de l'Internet, et il a suggéré à Henri Becquerel, qui était un physicien tout à fait remarquable, que ce seraient les substances fluorescentes qui pourraient émettre les rayons X. Et effectivement, Becquerel fait des expériences en prenant une substance fluorescente, qui était un sulfate double d'uranium. Il met une plaque, un film photographique, il expose pendant un jour au soleil et il voit effectivement un noircissement de l'émulsion au contact de la préparation d'uranium. Le 1er mars, c'est encore mieux, si on éclaire, on le laisse 4 jours. Même effet après une exposition de 5 heures au soleil, malheureusement, 5 heures à l'obscurité, on noircit aussi la plaque, ce qui ne peut plus marcher, puisqu'une substance fluorescente a besoin de l'éclairement par un rayonnement lumineux. Il confirme, 23 mars, noircissement avec des sels d'uranium non fluorescents. Donc cette fois-ci, l'hypothèse de Röntgen et celle d'Henri Poincaré ne fonctionne pas. Et Henri Becquerel conclut, après une série d'expérimentations, que l'effet n'est pas dû à la fluorescence, mais à une propriété spécifique de l'uranium, c'est la découverte de la radioactivité naturelle. À cette époque-là, il y a un grand mouvement de la physique. Donc, 95, découvert des rayons X. 1896, on vient de le dire, découvert de la radioactivité. 1898, Pierre et Marie Curie, découvert du polonium et du radium. 1899, Rutherford, découverte des particules alpha. 1901, premier prix Nobel de physique. C'est intéressant, il est attribué à Röntgen. 1903, c'est le prix Nobel de physique pour Becquerel, Pierre et Marie Curie. 1908, c'est Rutherford qui a le prix Nobel de physique. Et le modèle de l'atome, c'est 1911. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on décrit immédiatement les premiers effets des rayons X Et notamment, on utilise les rayons X pour détruire des lésions cutanées. Et application de la radioactivité naturelle, Pierre Curie et Henri Becquerel se mettent eux-mêmes des substances radioactives sur la peau et observent des lésions. Et immédiatement, Pierre Curie se dit que ça permettrait peut-être de traiter des lésions cutanées ou des tumeurs cutanées, et il en donne à un médecin de l'hôpital Saint-Louis et 1909, fondation de l'Institut du Radium. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que en 6 semaines, la radiologie a été découverte après les rayons X. Par contre, ce qui est résulté de la radioactivité naturelle, ce n'est pas de l'imagerie, c'est la radiothérapie. Alors, je saute un petit peu pour aller plus vite. L'autre grande notion qui va nous intéresser maintenant, c'est le positon. Positon qui a été découvert par Anderson en 1933, à la suite de la prédiction totalement théorique de Dirac, qui avait prédit l'existence d'électrons positifs. Et c'est encore une fois Irène et Frédéric Joliot qui mettent en évidence des électrons positifs dits de matérialisation, et ils montrent l'annihilation de la paire électron positif électron négatif. Ils mettent en évidence également les électrons de transmutation. C'est la découverte de la radioactivité artificielle. Et vous voyez, le 7e congrès Solvay, congrès célèbre qui se réunissait tous les ans, en 1933, scepticisme de la majorité des participants, notamment de Lise Meitner. Mais Niels Bohr disait, si vraiment, comme le suppose M. Joliot, les positons viennent de l'intérieur du noyau, les circonstances seront fort semblables à celles des rayons bêta, et vous allez voir dans un instant ce que nous on fait avec les positons pour voir le cerveau. Aussi tout à fait intéressant pour cette époque, c'était Marie Curie qui était très connue, plus que les enfants, et lors de cette conférence internationale de physique à Londres en 1934, le journal Le Soir disait, il citait Frédéric Joliot, qui disait « Il est très possible, si nos expériences réussissent, que nous puissions fabriquer une substance dont les applications médicales obtiendront le même effet que le radium. » Donc il se situait dans la perspective des travaux de sa belle-mère. Et le petit journal disait « Pour le traitement du cancer, donc on est toujours dans cette perspective du cancer, Irène Joliot-Curie, celle qui était connue, la fille, et son mari, accessoire, posséderait la formule du radium artificiel. On laisse entendre à cette occasion que la fille de Madame Curie pourrait bien recevoir le prix Nobel. » Donc voilà cette découverte qui va être évidemment la base de toute l'imagerie pour nous et de toute la base de la médecine nucléaire, c'est la découverte de la radioactivité artificielle en janvier 1934 par Irène et Frédéric Joliot-Curie. Et voyez, 15 janvier 1934, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, un nouveau type de radioactivité, et immédiatement dans Nature, un article d'une page, production artificielle d'une nouvelle sorte de radioélément. C'est la découverte de la radioactivité artificielle. En fait, il y a 2 découvertes là-dedans. Il y a non seulement la découverte de la radioactivité artificielle, mais aussi la découverte de la radioactivité par émission de positons. Alors, pour aller plus loin et arriver à l'imagerie, il faut encore 2 autres éléments importants. Premièrement, c'est de l'instrumentation, puisqu'il faut produire des particules. Pour situer 1934, découverte de la radioactivité artificielle, mais 1930, Lorentz à Berkeley construit le premier cyclotron, fission du noyau en 1939 et divergence du premier réacteur à Chicago par Fermi en 1942, qui va nous permettre d'avoir des radioéléments artificiels. Et puis l'autre élément très important, ce sont les travaux de Dehévesy. Georges Dehévesy, qui était un savant hongrois, un chimiste, qui travaillait, qui voulait faire sa thèse chez Rutherford, à qui Rutherford avait confié un travail pas trop intéressant, de séparer des éléments radioactifs. Et Dehévesy a eu l'idée d'utiliser ces éléments radioactifs comme traceurs, donc de permettre de suivre à la trace le devenir d'éléments non radioactifs, et il en a été largement récompensé par le prix Nobel en 1943. Donc on a là maintenant l'ensemble des moyens physiques et instrumentaux et physiologiques qui vont permettre d'aller plus loin dans l'image. Autrement dit, si je prends par exemple le carbone, on est tous formés de carbone 12 avec 1% d'un isotope, le carbone 13, qui est un isotope stable. On est tous formés, disons 99% de carbone 12 et 1% de carbone 13. Mais il y a d'autres isotopes. Il y a le carbone 14, bien connu, qui est un isotope bêta moins. Donc il émet des électrons. Nous, il ne nous intéresse pas. Pourquoi ? Parce que l'électron négatif va avoir un trajet de l'ordre d'une fraction de millimètre dans un tissu. Et si on veut voir la localisation de ce carbone 14, disons, dans le cerveau, il faut faire ce qu'on fait sur le rat, c'est-à-dire couper le cerveau en tranches fines, mettre une plaque photographique au-dessus et voir là où il y a de la radioactivité. Par contre, le carbone 11, lui, est un émetteur de positons. Lui, c'est un électron positif. Il va aussi avoir un trajet dans la matière de l'ordre du millimètre. Mais quelle est la différence avec le carbone 14, avec l'électron négatif ? C'est que l'électron positif, c'est de l'antimatière. Or, l'antimatière ne peut pas exister dans notre univers. Et donc, il va rencontrer un électron libre. Et lorsque le positon et le négaton, l'électron positif et l'électron négatif, se rencontrent, eh bien, ils vont s'annihiler, la masse disparaît, et c'est la relation d'Einstein, E égale mc2, et on va voir apparaître deux photons qui, cette fois-ci, vont sortir du cerveau. Et je vais vous montrer ça plus précisément dans un instant. Et puis, il y a une autre radioactivité qui nous intéresse aussi, l'émission gamma, notamment celle de l'iode, qui est utilisée couramment en médecine nucléaire. Alors, pour en arriver à l'imagerie d'aujourd'hui, il faut quand même voir comment se passait l'imagerie, disons, dans les années 1950. Dans les années 1950, on injectait de l'iode, par exemple de l'iode 131, c'est celui dont on disposait à l'époque. L'iode 131 va aller dans la thyroïde, et pour s'incorporer dans les hormones thyroïdiennes, l'hormone a 4 atomes d'iode. Et ce que l'on faisait, c'est de promener un compteur Geiger-Müller en regard du coût du malade. Un opérateur mesurait la radioactivité point par point. Il déplaçait la sonde, il remesurait la radioactivité, et puis on traçait sur la feuille de papier les zones, les isocontours, d'isodoses. Et on obtenait de cette façon des images qui ne sont évidemment pas anatomiques, mais qui sont des images fonctionnelles, puisqu'elles montrent l'incorporation de l'iode dans l'hormone thyroïdienne de la thyroïde. Et sur cette image, on voit très bien quelque chose qui était une découverte à l'époque, où on a la thyroïde qui est ici, et on a une autre fixation de l'hormone thyroïdienne en position sublinguale, puisque vous avez le menton qui est ici. C'est une thyroïde ectopique. L'important, c'est que des malades qui ont une hyperthyroïdie, un fonctionnement exagéré de la thyroïde, bien, si on leur enlève la thyroïde, les symptômes continuent, puisqu'il y a toute une partie du tissu thyroïdien qui se trouve ailleurs. C'est ça l'intérêt d'une imagerie fonctionnelle. Voilà une première gamma caméra qui permet de détecter des rayons X, qui avait été fait à l'époque par Thomson CGR, du temps où il faisait de l'imagerie médicale. Et c'était une caméra amplificateur de brillance, qui était très originale. Et on voit ici une image de cerveau, où on voit ici la base du crâne, on voit ici le contour du crâne, le front serait ici. En arrière, on a la région occipitale. Et ce qu'on voyait ici, c'est une tumeur cérébrale. Toutes ces méthodes ont disparu au profit de nouvelles méthodes dont je vais vous parler. L'autre notion importante et qui a permis de faire l'imagerie médicale ces 10 dernières années, c'est évidemment le développement de l'informatique. Car à l'époque, dans les années, ici, on est dans les années 70-80, voilà un ordinateur dont on disposait à l'hôpital et dans les services de recherche, le Multi-8 d'Intertechnique, 8K de mémoire, et néanmoins, on arrivait à faire des enregistrements avec des bandes magnétiques. Mais c'était tout à fait insuffisant pour faire les développements actuels qui, vous allez le voir, consomment une informatique en quantité considérable. Et l'étape suivante a été la possibilité d'avoir non pas des projections, comme je viens de vous le montrer, sur un cerveau, donc des projections en deux dimensions, mais d'avoir véritablement des coupes virtuelles de cerveau. Et ceci est dû, d'une part, à Hounsfield, qui était un ingénieur d'IMI, hein, la voix de son maître, qui a eu l'idée d'un procédé pour reconstruire des images de façon numérique et simultanément, mais de façon totalement indépendante, par un physicien d'hôpital, Cormac, qui travaillait au Cap, en Afrique du Sud, puis ensuite à Boston, qui a eu une idée, un procédé mathématique transformé de radon. En fait, il avait pas il ne savait pas qu'elle avait déjà été faite par radon bien plus tôt, mais enfin, il l'a redit après. Et tout ceci, vous voyez le dispositif expérimental qu'ils employaient avec une source et un détecteur, le tout pouvant tourner autour ici du fantôme de cerveau en plastique. Même chose ici, une source de rayons X, le détecteur qui est caché, et tout ceci pouvant tourner autour du cerveau représenté ici par cette boîte en plastique. Et ici, la simple équation dont ils recherchaient le coefficient d'atténuation des tissus, ce petit f. Alors ça paraît simple, néanmoins, ils ont eu le prix Nobel pour ça, c'était pas si simple, en 1979. Alors ça, c'est le début de l'imagerie moderne, c'est le début du scanner X. Et début, première image en 1973, vous voyez, donc on se rapproche d'aujourd'hui. Quand on compare à l'époque une coupe de cerveau, comme on le voit ici, coupe anatomique du cerveau, et puis la première image, on devine à peu près hein, la boîte crânienne qui avait un cerveau à l'intérieur, peut-être ici les ventricules latéraux en noir. Pour faire une telle image, il fallait 18 heures d'ordinateur. Et autrement dit, hein, le fait qu'on ait pu avoir des composants de plus en plus puissants avec des prix décroissants à vitesse exponentielle, eh bien, a fait qu'on peut avoir une imagerie moderne. Sinon, on n'aurait pas pu le faire. Alors, je vais vous parler de plusieurs techniques utilisant la radioactivité, d'une part, la tomographie par émission de positons, d'abord, et puis je vous parlerai ensuite d'une autre technique qui est basée, là aussi, sur la physique, mais cette fois-ci sur la physique quantique, qui est l'imagerie par résonance magnétique. Et vous allez voir que grâce à ça, on peut voir ce qu'on appelle le living brain, c'est-à-dire le cerveau vivant, et même le cerveau pensé, comme on le dit aujourd'hui. Alors, si j'en reviens encore avant d'arriver aujourd'hui à ce qui se passait en 1985, les physiciens se sont dit, bon, finalement, la médecine, ça ne doit pas être bien compliqué. On est quand même, on a un degré de connaissance bien au-delà de celui des médecins. Et finalement, qu'est-ce qu'il faut pour faire une image ? Eh bien, il faut combiner l'interaction d'un rayonnement, quel qu'il soit, électromagnétique, d'une onde acoustique, d'un faisceau de particules. On combine ça, on regarde l'atténuation ou la réflexion, et puis avec un algorithme mathématique, notamment ces fameux algorithmes de rétroprojection filtrée de Cormac et Hounsfield, eh bien, on doit bien se débrouiller pour avoir des images. Alors, tout a été, depuis les gammas jusque, vous voyez, à l'impédance, à l'imagerie d'impédance, en passant par les ultrasons, on a fait, et ça s'est fait même à Saclay, de la diffusion de protons avec Saturne autrefois, eh bien, tout y est passé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste ? Il reste évidemment les rayons gamma, tomographie par émission de simples photons, tomographie par émission de positons, les rayons X, qui est le scanner, que vous connaissez, hein, il y en a dans toutes les cliniques, dans tous les hôpitaux. L'infrarouge, ça ne marche pas très bien. Les micro-ondes, on est près du four du même nom, donc ce n'est pas encore bien clair. La résonance paramagnétique électronique, ça nécessite d'injecter des substances, des radicaux libres, ce qui pose des problèmes. Par contre, alors, les radiofréquences, c'est le grand domaine de l'imagerie par résonance magnétique. Et l'imagerie d'impédance, bon, il y a des tentatives, mais il n'y a pas beaucoup de résultats. Les ultrasons, je vous ai dit, je ne vous en parle pas, parce que ça ne se prête pas au cerveau, mais c'est vraiment la méthode la plus utilisée. Et puis, les faisceaux de particules, on peut les oublier maintenant. Alors, rapidement, je vais vous montrer ces méthodes d'imagerie d'aujourd'hui appliquées au cerveau. Très rapidement, la gammatomographie. Plus longuement, la tomographie par émission de positons et l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, celle qui nous intéresse, non pas l'imagerie anatomique. Je dirai un mot de la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire in vivo. In vivo, parce que tout ce qui nous intéresse, c'est de faire des mesures chez le sujet sain, chez le malade, chez l'enfant, chez l'adulte. La magnétoencéphalographie, et puis des méthodes nouvelles, mais qui ont des applications limitées, notamment les méthodes optiques dans le proche infrarouge. La gammatomographie, eh bien, c'est l'émission gamma. Un seul photon est émis. On va placer en regard du cerveau, de la tête du malade, ce qu'on appelle une gamma caméra avec un collimateur, c'est-à-dire du plomb percé de trous, un cristal qui transforme les gamma en photons lumineux, des amplificateurs de brillance. Et voilà un exemple. Ici, il y a deux têtes de gamma caméra. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire tourner les deux têtes. C'est pour faire de la tomographie et obtenir des coupes. Un exemple, une image anatomique d'IRM. Anatomique, ça veut dire que l'image serait la même si le sujet est vivant ou le sujet est mort. Et puis, ce qui se passe chez un malade qui a une épilepsie du lobe frontal et qui est en état de crise, où on voit le haut du cerveau, la base du cerveau, le côté droit, le côté gauche, et on a injecté une substance qui va permettre de mesurer le débit sanguin cérébral. Et on voit sur cette coupe frontale qu'il y a une augmentation de la perfusion sanguine là où il y a la crise d'épilepsie. Et ici, c'est une coupe, cette fois-ci, transverse. La partie frontale est ici, la région occipitale est ici. Et on voit magnifiquement cette augmentation de débit qui est bien plus apparente que sur les images anatomiques d'IRM. Cette gammatomographie, elle est utilisée quotidiennement dans les services de médecine nucléaire du monde entier. Mais je voudrais me situer dans une perspective plus de recherche et aborder maintenant la tomographie par émission de positons. Donc je vous l'ai dit, par rapport à la gammatomographie, c'est plus un photon qui est émis. Cette fois-ci, c'est un positon qui est émis, qui a une certaine énergie cinétique. On a injecté ce positon et sur une molécule, je vais vous le montrer dans un instant, ça peut être un médicament. On a remplacé un carbone 12, carbone naturel, par un carbone radioactif. On l'injecte par voie intraveineuse. Le médicament va dans un endroit particulier du cerveau. On va en voir des exemples. La radioactivité va décroître, donc émission d'électrons positifs. Ils perdent leur énergie cinétique, disons, avec les isotopes qu'on utilise, disons en 1 mm, ils sont au repos, ils rencontrent un électron libre, la paire positon-négaton s'annihile, et voyez apparaître deux photons émis simultanément, à 180 degrés l'un de l'autre, conservation de la quantité de mouvement, et ils ont chacun une énergie de 511 kiloélectronvolts, parce que c'est la relation d'Einstein, la masse de l'électron positif et celle de l'électron négatif se sont matérialisées sous forme d'énergie. Et ce sont ces deux photons qu'on va détecter en plaçant des détecteurs autour du malade ou du sujet. Et chaque fois qu'on verra arriver deux photons en même temps, on se dira, tiens, quelque part, on ne sait pas où, mais quelque part, proche de cette trajectoire, il y a eu lieu émission d'un positon. Alors, quels sont les isotopes que nous allons utiliser ? Bien, les molécules sont formées de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, d'azote, et puis certaines d'entre elles de phosphore. Je vous ai dit tout à l'heure que le carbone 11 est un émetteur de positons. Eh bien, on va pouvoir remplacer un carbone 12 par un carbone 11. L'oxygène 15 est un émetteur de positons. Le fluor 18, il y a beaucoup de médicaments, les neuroleptiques par exemple, des tranquillisants et d'autres, qui sont marqués, qui contiennent du fluor. On va pouvoir remplacer un fluor par quelques atomes radioactifs de fluor 18. Vous voyez qu'il n'y a pas d'hydrogène, on n'a pas d'isotope émetteur de positons d'hydrogène, on n'en a pas non plus pour le phosphore. Mais dans un instant, je vais vous dire que ceux-là, on pourra les détecter par résonance magnétique nucléaire. Donc vous voyez pourquoi ces deux techniques sont extrêmement déjà complémentaires. L'inconvénient ou l'avantage de ces émetteurs de positons, c'est qu'ils ont des durées de vie très brève. La période physique du carbone 11, c'est 20 minutes, ce qui veut dire que toutes les 20 minutes, la radioactivité décroît de moitié. Pour l'oxygène 15, c'est encore pire, ou encore mieux pour le sujet, c'est 2 minutes de période. Alors, c'est bien parce qu'on peut injecter beaucoup de radioactivité sans aucun effet, bien entendu. L'inconvénient, c'est qu'on doit produire le carbone 11, en particulier on le fait, je vais vous le montrer, avec un cyclotron, mais le carbone 11 tout seul, il n'a aucun intérêt. Il faut l'incorporer dans un médicament, dans un acide aminé, dans un sucre, dans une molécule organique, donc c'est de la chimie. Il faut faire cette chimie sur place, et on a peu de temps pour la faire. Et puis il faut évidemment que le malade ou le sujet sain que l'on veut étudier se trouve aussi à côté, parce que sinon on ne peut pas transporter une molécule marquée au carbone 11. Il n'y aurait plus de radioactivité le temps qu'on amène la radioactivité à l'hôpital ou dans un laboratoire de recherche. Donc c'est une installation évidemment lourde. Au service hospitalier Frédéric Joliot à Orsay, qui est dans la direction des sciences du vivant du CEA, on a eu un cyclotron, un des tout premiers au monde, le deuxième au monde. À l'époque, c'était un cyclotron CGR-MEV, qui était un gros cyclotron, et c'est clair que le commissaire à l'énergie atomique était le mieux à même d'avoir une telle installation. Vous voyez ce cyclotron que je viens d'arrêter il y a quelques semaines. Et voilà ici les premières caméras à positons qui ont été mises au point. Vous voyez, il y avait simplement ici deux détecteurs. Vous voyez le sujet, vous voyez la tête du sujet, son nez. Et on détectait simplement les deux photons émis simultanément qui arrivaient sur ces deux détecteurs. Un ou deux ans plus tard, ça c'était Brownell à Mass General Hospital à Boston, et une caméra a été mise au point à Philadelphie, puis à UCLA, où cette fois-ci il y a une couronne, vous voyez ici les photomultiplicateurs, qui entourent la tête du sujet. Alors, schématiquement, pour résumer tout ça, donc voilà, on injecte la molécule marquée, on détecte ce qu'on dit en coïncidence, les deux photons, on reconstruit les images à l'aide des algorithmes qui sont plus ceux de Cormack et Hounsfield, mais peu importe, et puis, grâce à la gamma caméra, on obtient des coupes de cerveau qui sont des coupes fonctionnelles, puisque vous voyez que ça ne ressemble pas a priori à un cerveau, et vous allez voir pourquoi dans un instant, il y a ces deux zones qui sont en plein milieu du cerveau et qui, visiblement, sont extrêmement radioactives. Donc, voilà le schéma global. On doit avoir donc des équipes multidisciplinaires. Il y a des ingénieurs, des techniciens qui s'occupent du cyclotron, des chimistes, des radiochimistes qui vont incorporer le carbone 11, le fluor 18, dans un précurseur non radioactif pour en faire une molécule radioactive. On la met dans une seringue. Et on se dépêche, pour ne pas perdre le moindre becquerel, de façon à l'injecter au malade qui attend sous la caméra à positons. Et ensuite, grâce à une équipe, à des informaticiens, à des mathématiciens qui vont transformer la radioactivité en un paramètre physiologique, on va obtenir cette série d'images de cerveau. Aujourd'hui, quel est l'état de l'art dans ces caméras à positons ? Vous voyez ici les exemples des caméras que nous avons à Orsay. Vous avez des caméras qui sont ici, des caméras, disons, qui se trouvent dans le commerce, avec une résolution de 5-6 mm. Ici, un prototype que nous avons, qui est fabriqué par Siemens, qui fait une résolution spatiale de 2,5 mm. Et puis une petite caméra à positons pour l'animal, car on fait maintenant la même chose pour l'animal, de façon à faire des études chez l'animal vivant, et non pas sur des séries d'animaux que l'on doit sacrifier. Et cette caméra est tout à fait remarquable. On est à 1,6 mm, c'est-à-dire le trajet pratiquement du positon. Donc on ne pourra pas descendre plus bas. Avant de parler du cerveau, je me dois quand même de vous dire que l'application la plus importante actuellement de la tomographie par émission de positons, c'est dans le domaine de la cancérologie. Vous savez qu'il y a eu un plan cancer et que le gouvernement a décidé d'équiper la France en caméras à positons. Il y en aura entre 60 et 70 caméras à positons réparties sur tout le territoire et utilisant une molécule marquée qui est un analogue du glucose, le fluorodéoxyglucose, c'est-à-dire un analogue du glucose marqué au fluor 18, émetteur de positons. Il a 2 heures de période. Donc on peut transporter la molécule à distance. Nous, on le produit toutes les nuits pour le transporter dans les hôpitaux. Et quel est le principe de cette méthode? C'est que les tumeurs consomment, on le sait depuis le début du XXe siècle, les tumeurs ont un métabolisme augmenté, consomment beaucoup d'énergie, consomment beaucoup de glucose, et donc la tumeur devrait pouvoir être mise en évidence si on est capable de faire des images de la consommation de glucose dans le corps. Et ici, ce que vous voyez, c'est une coupe qui n'est plus une coupe de cerveau, mais qui est une coupe longitudinale du corps. La tête serait ici, on voit le haut des épaules, la vessie qui élimine le déoxyglucose, on distingue un peu le foie, on a le cœur, les deux poumons, mais ce qui est parfaitement anormal, c'est ce nodule pulmonaire qui est un cancer du poumon, et surtout, et c'est ça l'indication de la tomographie par émission de positons, c'est de voir l'existence de métastases, et vous en voyez un peu partout. Donc il est clair qu'il n'y a aucun intérêt à enlever la tumeur, sachant qu'il y a des métastases partout. Et l'intérêt de cette méthode, c'est de suivre l'effet d'un traitement, c'est de suivre au cours du temps l'apparition de métastases, de rechutes. Et c'est une méthode qui actuellement dans le monde entier s'impose, et en France, qui est maintenant remboursée, ce qui est un événement, par la Sécurité sociale depuis maintenant 2 ans, donc c'est quelque chose de récent. Donc il faut l'avoir en tête, mais c'est maintenant devenu une application clinique, alors qu'il y a encore quelques années, on disait, oui, la tomographie par émission de positons, c'est bien, c'est compliqué, c'est quelques centres de recherche dans le monde qui s'y intéresseraient. Voyez comment une application, véritablement, hein, encore une fois, tirée de Dirac, hein, de la théorie de Dirac de l'électron positif, à une application clinique quotidienne. Alors, les applications pour l'étude du cerveau, elles sont infinies puisque, théoriquement, n'importe quoi peut être marqué. Donc, ça dépend des médecins, ça dépend des physiologistes, des pharmacologues. On peut étudier le métabolisme. Je vous ai montré à l'instant la consommation de glucose, mais on pourrait regarder la synthèse protéique, on pourrait regarder la consommation d'oxygène, on peut regarder la perfusion cérébrale. On peut regarder et quantifier point par point dans le cerveau les récepteurs des neurotransmetteurs. Vous savez que la transmission se fait de façon chimique entre 2 neurones, que ce soit l'adrénaline, l'acétylcholine, l'histamine, les opiacés, la dopamine, etc. Tout ceci, on sait le faire. On peut regarder la synthèse d'un neurotransmetteur. Je vais vous en montrer un exemple, la synthèse de la dopamine. On peut regarder les enzymes qui sont présentes dans le cerveau. Donc tout ceci peut se faire et c'est une liste qui n'a aucune fin puisque ça dépend totalement de tout ce que l'industrie pharmaceutique peut produire comme nouvelles molécules ou les chercheurs. Premier exemple, j'ai montré tout à l'heure l'épilepsie qui était dans une phase active, critique. Le malade était en crise pendant qu'on faisait l'imagerie du débit sanguin. Ici, on voit une image obtenue en imagerie par résonance magnétique, avec les lobes temporaux, le partie occipital en arrière, le tronc cérébral. C'est une image purement anatomique. Je vais vous dire dans un instant comment on l'a obtenue. Vous voyez tout de suite ici, ceci représente la consommation de glucose. Et je crois que cette image, elle est quantitative. Plus c'est rouge, plus la consommation de glucose est importante. Et il n'y a pas besoin de faire une grande expérience des images pour voir que manifestement, dans ce lobe temporal, il y a une diminution considérable de la consommation de glucose, là où apparaît, où il y a une épilepsie, mais qui cette fois-ci n'est pas en phase de décharge critique, mais pendant que le malade n'a pas de crise épileptique. Donc pour le chirurgien, c'est évidemment d'une aide importante de pouvoir détecter des zones pathologiques comme celle-ci. Autre exemple, la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est due à une destruction de neurones du tronc cérébral qui produisent un neurotransmetteur qui est la dopamine. Cette dopamine, elle va être libérée normalement au niveau d'une synapse entre 2 neurones qui se trouve dans une structure très particulière en plein milieu du cerveau, qu'on appelle les noyaux gris ou les corps striés. Eh bien, ce que l'on a fait ici, c'est que on sait que chez les malades, le traitement de la maladie de Parkinson, c'est de donner les, non pas de la dopamine, parce que quand on la donne par voie intraveineuse, elle ne peut pas passer la barrière hémato-encéphalique, donc on donne de la dopa, qui devient de la dopamine dans le cerveau. Et ce que l'on fait, c'est de marquer la dopa avec du fluor 18, et donc on va essayer de suivre la libération de la dopamine en suivant les quelques molécules radioactives qu'on a injectées par voie intraveineuse. C'est la méthode des traceurs, la méthode de Dehevesi. Chez un sujet normal, l'image du cerveau est totalement différente de celle que vous venez de voir. Lorsqu'on injecte du glucose, on voit tout le cortex. Ici, ce serait la partie antérieure du cerveau, toujours pareil, la partie postérieure, le côté droit, le côté gauche. Ce cortex, hein, cette activité des neurones, c'est un bruit de fond. C'est logique, puisque ce n'est pas du glucose qu'on a injecté, c'est un marqueur de la dopamine. Et ce que l'on voit en blanc, ce sont ces deux structures centrales, ces deux noyaux gris, là où se fait la libération de la dopamine. Eh bien, si on regarde maintenant un malade qui a une maladie de Parkinson débutante, eh bien, on s'aperçoit que ce côté gauche, la libération de dopamine est encore relativement normale, mais on voit que dans la partie droite, il y a une partie conservée, et on sait à quoi ça correspond, ça s'appelle la tête du noyau codé, alors que l'autre partie, qui s'appelle le putamen, il y a une diminution de la libération de dopamine. Donc vous voyez la puissance de cette méthode. Vous pouvez faire un scanner X, vous pouvez faire de l'imagerie par résonance magnétique anatomique, le cerveau est strictement normal. Là, on est en train de voir, de faire de la neurochimie du cerveau, on voit en tomographie par émission de positons la libération de dopamine, la dopamine marquée au fluor 18, libère donc ces électrons positifs qui s'annihilent et les deux photons sont détectés autour et c'est grâce à ça qu'on reconstruit les images. Et voilà une maladie sévère où cette fois-ci il n'y a pratiquement plus de libération de dopamine d'un côté et du côté qui était opposé, il ne reste plus grand-chose non plus. Donc on peut suivre de cette façon-là l'évolution d'une maladie en tomographie par émission de positons. Alors on peut faire, je vous l'ai dit, ça dépend uniquement de l'imagination des chercheurs, des médecins. On peut avoir des images de toute nature, des images où on voit le cortex parce que c'est le glucose, des images où on voit les noyaux gris centraux parce que ça peut être par exemple ici de la fluorodopa. Ça peut être aussi des images où on voit une autre structure. Vous voyez, les noyaux gris seraient ici, c'est une autre structure dont je vais vous parler, le thalamus, parce que c'est autre chose que l'on va marquer. Donc, une méthode qui a des possibilités énormes. Et je vais vous en montrer un autre exemple, cette fois-ci qui concerne les récepteurs de la nicotine, c'est-à-dire des récepteurs de l'acétylcholine, puisque dans le cerveau, il y a deux types de récepteurs de l'acétylcholine, ceux qui sont de type muscarinique et ceux qui sont de type nicotinique. Et vous savez qu'on voit une perte de ces récepteurs dans la maladie d'Alzheimer. Eh bien, ici, ce que nous avons fait, c'est marquer un médicament. Ce médicament, on l'a marqué, il contient du fluor. Donc, on a remplacé un fluor par un fluor 18, toujours le même principe. On l'injecte par voie intraveineuse et on obtient des images. Ce que vous avez sur ces images, c'est la superposition d'une image anatomique obtenue en résonance magnétique. C'est pour ça que vous avez en noir et blanc une magnifique anatomie du cerveau. Ici en coupe transverse, et ici vous avez une coupe longitudinale où on voit très bien les yeux seraient ici, le nez, le cervelet en arrière, le cortex occipital. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a relativement peu de fixation de ce molécule sur le cortex. Par contre, il y a deux structures qui apparaissent ici, différentes de celles que je vous ai montrées pour la dopamine qui était celle-ci, la tête du noyau codé et le striatum. Ici, ces deux structures que l'on voit de profil ici, c'est le thalamus. Ces récepteurs de la nicotine, on les trouve dans le thalamus. Eh bien, là encore, ce que permet de faire la tomographie par émission de positons, c'est de mesurer quantitativement, point par point, non seulement la radioactivité, mais la densité de récepteurs, grâce à un modèle mathématique, et donc de suivre au cours du temps l'évolution de la radioactivité dans le thalamus. C'est ce que vous avez sur cette courbe, après injection, vous voyez, on a suivi pendant 3 heures, 4 heures, on a suivi l'évolution de la radioactivité dans cette zone. Bien. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est qu'on a fait fumer une cigarette au sujet en lui faisant de nouveau la même injection de fluoro A85-380. Et ce que vous observez, c'est que lorsque 80 minutes après l'injection, c'est la courbe rouge, on lui fait fumer une cigarette, eh bien on a une diminution considérable de la radioactivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce traceur radioactif, on en injecte des quantités infimes. C'est ça l'intérêt de la méthode des traceurs. Eh bien, la nicotine qui a fumé et qui est arrivée dans le cerveau, elle est en quantité importante. Et il y a une compétition au niveau des récepteurs qui sont des protéines membranaires sur le neurone entre quelques molécules de traceurs et un excès de molécules de nicotine qui vont sur le même site de liaison. Et du coup, eh bien, chaque fois qu'une molécule de traceur s'en va, c'est pris par une molécule de nicotine qui n'est pas radioactive, donc la radioactivité décroît. Donc on est capable de mettre en évidence directement, in vivo, chez l'homme, l'effet de la nicotine sur les récepteurs cérébraux. Là encore, c'est une méthode d'une puissance extraordinaire d'arriver à voir ça chez un volontaire sain. Bon. Mais on peut aller encore plus loin. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'on est capable de voir ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous êtes en train de regarder l'écran. En effet, lorsque vous regardez l'écran, bon, il y a des circuits neuronaux que je ne décris pas et des neurones qui vont être activés au niveau du cortex visuel, dans le cortex occipital. Eh bien, si on injecte du glucose marqué, ce déoxyglucose, ces neurones qui sont activés dans le cortex visuel, on s'était dit que peut-être il y aurait besoin d'énergie pour faire ce travail, ce qui serait rassurant parce que ça montrerait que le travail intellectuel, ça consomme de l'énergie. Et si c'est vrai, on devrait voir une consommation augmentée de glucose entre une situation où vous avez les yeux fermés et une situation où il y a les yeux ouverts et on regarde un écran. Eh bien, c'est ce qu'on a observé. On a ici une vue tridimensionnelle du cerveau d'un volontaire. On lui a enlevé la boîte crânienne, par l'informatique bien entendu. Et il reste en rouge ce qui a été vu en tomographie par émission de positons, où on a fait la différence entre les yeux fermés et les yeux ouverts, et on voit dans le cortex occipital une augmentation de la consommation de glucose. Alors, ceci, voilà ici une vue tridimensionnelle du cerveau d'un sujet. On lui a même ici un peu coupé le cerveau, c'est d'une vue tridimensionnelle obtenue en résonance magnétique. Et puis, on a superposé là-dessus la tomographie par émission de positons. Cette fois-ci, on a injecté de l'eau marquée à l'oxygène 15, 2 minutes de période. Donc c'est H2O 15. On l'injecte par voie intraveineuse. On a un modèle mathématique qui permet de transformer la radioactivité en mesure du débit sanguin cérébral régional, c'est-à-dire point par point. Eh bien, on lui fait vibrer les doigts de la main gauche et on voit magnifiquement, du côté droit, dans la région sensorimotrice, une augmentation du débit sanguin. Et vous voyez qu'on l'a bien, ici on a découpé le cerveau du sujet, on a fait ressortir juste la circonvolution qui correspond à l'activation des neurones sensitifs, sensitivo-moteurs. Donc voilà, là encore, un exemple obtenu avec l'oxygène 15. On n'a même pas le temps de faire une synthèse. L'oxygène 15 est produit, le gaz est produit par le cyclotron. On a une conduite qui relie le cyclotron quasiment au nez du malade. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. On va au pied du lit sous la caméra à positons. On transforme l'oxygène 15 en H2O15, ce qui est une réaction évidemment éminemment simple. Et on le perfuse et on obtient ces images. Résultat avec ce type de méthode, vous l'avez peut-être vu dans la presse il y a quelque temps, Monica Zilbovicius à Orsay a montré qu'on était capable de voir chez n'importe quel enfant autiste, on était capable de mettre en évidence une diminution du débit sanguin cérébral, mesurée en tomographie par émission de positons avec de l'eau marquée dans cette région du cortex temporal. Je passe à la deuxième méthode, l'imagerie, mais les autres iront plus vite, rassurez-vous, à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. De nouveau la physique, mais là elle est encore plus compliquée, puisqu'on va cette fois-ci regarder les spins du proton, les spins du phosphore. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'émetteur de positons qui nous conviennent du proton, du phosphore, mais ils ont un spin 1,5, c'est-à-dire qu'ils vont se comporter comme des petits aimants. Or, on est formé essentiellement d'eau, hein, contient 75% d'eau, donc on a énormément d'atomes d'hydrogène, donc de noyaux de protons, et c'est ces protons, les spins des protons, que l'on va mettre en évidence pour l'imagerie par résonance magnétique, et vous avez déjà vu les images anatomiques que je viens de vous montrer. Alors, voilà la première image d'IRM qui a été proposée par Lauterbourg en 1973, et je me souviens quand il a montré ces images à un congrès, ce sont deux tubes d'eau vus en coupe, et il a dit que ben voilà, ça pourrait être intéressant, ce qui, vous voyez, était loin des images que vous venez de voir à l'instant. Néanmoins, Lauterbourg et Mansfield, qui a utilisé donc la transformée de Fourier pour obtenir des images, eh bien, ont été récompensés, dont l'avant-dernier prix Nobel de physiologie. Ce qui est intéressant, c'est que Lauterbourg est un chimiste et que Mansfield est un physicien. Vous voyez qu'il est à l'université, à l'école de physique et d'astronomie de Nottingham. Et les premières images, qui n'étaient pas très belles, hein, on voit les yeux, on voit le cerveau en gris, mais vous voyez, on ne voit pas du tout le détail du cortex et des structures, mais voilà les premières images, 1980, c'est-à-dire donc il y a 25 ans, les premières images. Voilà des images actuelles où on distingue l'anatomie mieux que lorsqu'on regarde le cerveau d'un malade qui a été coupé en tranches post-mortem. Alors, j'en reviens à mes activations cérébrales. Pourquoi on pouvait voir tout à l'heure la consommation de glucose dans le cortex visuel lorsque vous êtes en train de me regarder? C'est parce que le fonctionnement du cerveau, c'est en fait, au niveau élémentaire du neurone, très simple. Ce sont simplement des canaux ioniques qui laissent à un moment donné, lorsqu'il y a le passage du potentiel d'action, rentrer du sodium, sortir du potassium. Pour que le sodium ressorte et que le potassium rentre dans le neurone, il faut de l'énergie. Cette énergie, elle est fournie par l'ATP, donc par du glucose, de l'oxygène, et tout ceci est amené par, en augmentant le débit sanguin. Alors, c'est ce qu'on a vu en tomographie par émission de positons, et je vais vous montrer que par une autre méthode, totalement non-invasive, sans la moindre injection, on est capable de le voir par la résonance magnétique nucléaire. C'est ce qu'on appelle l'IRM fonctionnelle, pour la distinguer de l'anatomie que vous avez vue tout à l'heure. Alors, ça veut dire la chose suivante. Si vous êtes en train, par exemple, de bouger vos doigts, c'est ce qu'on, ici on bouge un seul doigt de la main droite, eh bien, dans votre cerveau, quand vous bougez le doigt, on est capable en temps réel de voir dans la région motrice, ici, c'est-à-dire du côté gauche, si vous bougez le doigt, l'index droit, on voit un signal qui oscille en fonction du mouvement des doigts. Ça, comment on l'obtient? Eh bien, on l'obtient par une technique qui consiste simplement à voir les changements de concentration d'oxyhémoglobine par rapport à la déoxyhémoglobine, car quand vous faites un mouvement, quand vous activez des neurones, je vous ai dit qu'il y a besoin de consommation d'oxygène, il y a donc plus d'hémoglobine oxygénée qui arrive. Or, entre l'hémoglobine oxygénée et l'hémoglobine désoxygénée, l'une est paramagnétique, l'autre ne l'est pas, l'une détruit localement le champ magnétique, puisque vous savez qu'on place les sujets dans un aimant, eh bien, c'est cette infime variation de signal qu'on est capable de détecter. Eh bien, on peut faire encore mieux. Voilà un exemple de Stanislas Dehaene, toujours au service hospitalier Frédéric Joliot, où on demande au sujet de faire une soustraction. Et on voit, cette fois-ci, c'est uniquement de l'IRM fonctionnel. Vous avez ici l'image anatomique, trois dimensions d'un volontaire, et superposé en rouge les zones qui correspondent à la soustraction de 11-5 et de 11-9, où on demande au sujet de faire un calcul exact. Et si on lui demande de faire un calcul approximatif, est-ce que c'est plus petit ou plus grand que 5, par exemple, eh bien, on voit des zones activées qui sont totalement différentes. Vous imaginez bien que la variation de débit ou de consommation d'oxygène, elle est minime. Eh bien, on a amené la technique aujourd'hui à ce degré de sensibilité, de résolution qui permet de voir ceci. Autre exemple, encore plus récent, toujours de Stanislas Dehaene, de voir l'inconscient. Eh bien, par un processus d'image subliminale, on présente au sujet des mots sur un écran qu'il ne peut pas voir, même si vous le savez que vous les avez mis, parce que la durée de présentation est trop courte, et néanmoins, on voit ici des mots visibles et des mots masqués, que même lorsqu'il y a des mots masqués, on a une augmentation de signal, c'est-à-dire évidemment un processus qui n'est pas conscient, puisque vous ne le voyez pas, il ne revient pas à la conscience. Et donc, on est capable de voir dans le cerveau ce qui se passe lors de diverses tâches, de langage, de calcul, de saisie manuelle, etc. Et voilà ce qu'on obtient aujourd'hui, pratiquement en temps réel, des reconstructions du cerveau d'un sujet, hein, d'un volontaire, qui montre les différentes localisations dans un cerveau en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. L'intérêt, eh bien, toujours ces études de calcul, vous avez vu tout à l'heure les zones de calcul normales, eh bien, il y a des sujets qui ont des acalculies parce qu'ils ont eu un accident vasculaire cérébral et il y a un caillot qui a bloqué une petite artère, qui a bloqué une certaine zone. Eh bien, on s'est aperçu que cette zone qui fait que le sujet ne peut plus faire 3 plus 2 égale 5, cette zone est la même que celle qu'on détecte physiologiquement. C'est la même qu'on détrouve chez des acalculies d'anciens prématurés. C'est la même localisation chez des sujets qui ont une maladie de Turner, une maladie génétique, où il y a une acalculie. Dernier exemple pour vous montrer la puissance de cette méthode totalement non-invasive qui a été faite encore récemment, toujours à Orsay, chez nous, où cette fois-ci, on a fait l'imagerie de nourrissons auxquels on a fait écouter une histoire et on s'est aperçu que ces bébés qui écoutent des phrases sont capables déjà de répondre à la parole en activant, voyez cet hémisphère gauche, toujours pareil, hein, le front serait ici, le cortex occipital, voyez ici un nourrisson à qui on a coupé le cerveau et vous voyez la zone activée. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est que on a fait écouter l'histoire, c'est une bande magnétique, soit à l'endroit, soit à l'envers. Quand c'est à l'envers, ça n'a plus aucun contenu sémantique. Et puis, il y avait deux sortes de bébés. Il y en a qui sont endormis, ça arrive, hein, et d'autres qui ont eu la gentillesse de ne pas s'endormir et de ne pas bouger. Ceux qui ont bougé ne sont pas évidemment dans l'étude. Eh bien, ces sujets, quand ils sont endormis, qu'on leur présente la parole à l'endroit ou à l'envers, il n'y a rien de spécial. Par contre, chez ceux qui entendent l'histoire qui a un contenu sémantique, on voit apparaître dans le cortex préfrontal droit une zone qui s'active, alors qu'elle ne s'active pas si c'est un son, une série de sons qui n'ont pas de contexte. Donc tout ceci révolutionne, là encore, la psychologie de l'enfant, Piaget, le développement, etc., où tout ce qui a, une grande partie de ce qui a été dit s'avère au fur et à mesure totalement faux. La spectroscopie RMN in vivo, eh bien, je vais très vite, parce que le temps passe, on peut faire de la chimie directement dans le cerveau, et ici, par exemple, mesurer la concentration d'un neurotransmetteur, qui est important notamment dans l'épilepsie, dans une région du cerveau. Encore une fois, ça c'est de l'anatomie. On va choisir une région et faire un spectre, comme on le faisait jusqu'à présent, en mettant un tube à essai dans un spectromètre RMN. Très rapidement, les autres techniques. Évidemment, l'inconvénient de la tomographie par émission de positons, de l'imagerie par RMN fonctionnelle, c'est que ça demande quand même un certain temps, une seconde, quelques dizaines de secondes. Les potentiels d'action, vous le savez, c'est la milliseconde. La milliseconde, bien pour le faire, il faut enregistrer soit les courants électriques, soit les champs magnétiques, ce que l'on fait par l'électroencéphalographie et par la magnétoencéphalographie. Donc la magnétoencéphalographie, ça consiste à enregistrer les variations de champs magnétiques produits dans le cerveau. Et donc on met des détecteurs, des squids, autour du cerveau et on essaye de reconstruire les dipôles d'activation. Voilà ici un exemple d'un magnétoencéphalographe qui se trouve à la Salpêtrière. Vous voyez le sujet dans son appareil. Évidemment, l'idée, c'est de corréler l'électricité avec l'imagerie RMN ou la tomographie par émission de positons. Eh bien, depuis peu de temps, on sait le faire. Et maintenant, on enregistre en même temps les courants électriques et l'IRM simultanément, de façon à avoir la localisation anatomique avec l'évolution des courants électriques dans le cerveau. Je passe sur la spectroscopie pour l'infrarouge. Je voudrais quand même, pour terminer, que vous n'ayez pas l'impression qu'on est en train de ressusciter la phrénologie de Gall, hein, 1803. Ce que l'on fait, nous, c'est peut-être encore plus ancien, c'est d'essayer de faire la lecture des représentations cérébrales, c'est-à-dire simplement d'essayer de voir quels sont les états physiques des populations de neurones dans diverses circonstances physiologiques ou pathologiques chez le cerveau, du cerveau normal et du cerveau pathologique. Alors, j'étais parti de Röntgen et du squelette pour en arriver à l'imagerie fonctionnelle. En fait, le point de départ, ça serait Morgagni, qui a élaboré le premier, le concept anatomique de la maladie, de voir il y a une lésion qu'on met en face d'une maladie. Je rappelle Bichat et cette très belle phrase, ouvrez quelques cadavres et vous verrez aussitôt disparaître l'obscurité que la seule observation n'avait pu dissiper, c'est presque un alexandrin. Et Virchow qui a fait la même chose au niveau de l'âme d'histologie. Eh bien aujourd'hui, on est entré dans une nouvelle ère, le 21e siècle, qui sera l'ère non plus de la physique, mais des sciences du vivant. Il doit y avoir des physiciens dans la salle, mais c'est vrai. Mais ces sciences du vivant, encore une fois, ce n'est pas de la biologie, c'est de la physique, c'est des mathématiques, c'est de la chimie, c'est de l'informatique. Et ce que l'on veut voir, c'est l'état des molécules dans in vivo, sans avoir à faire de prélèvement. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'il faudrait ? Quels sont les développements instrumentaux qui sont nécessaires ? Eh bien, on voudrait voir le développement du cerveau déjà avant la naissance. On est capable aujourd'hui d'imager un fœtus dans le ventre de sa mère et de regarder le développement du cerveau, ici, vous le voyez, au cours du développement fœtal jusqu'au 9e mois. Et ce que l'on veut faire, c'est augmenter la résolution spatiale et améliorer la résolution temporelle. Autrement dit, être capable de voir des images de quelques milliers de neurones et non plus de quelques centaines de millions de neurones, avec une acquisition non plus en quelques dizaines de secondes, mais en quelques millisecondes, parce que c'est ça l'échelle physiologique du potentiel d'action. Et comment on peut le faire ? Eh bien, nous pensons qu'il y a une méthode qui est de choix, qui est l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Et nous avons un projet qui est en développement actuellement, qui s'appelle Neurospin, qui est de repousser les limites de l'imagerie cérébrale. Et avec nos collègues physiciens de la Direction des sciences de la matière du CEA, du DAPNIA, on est en train de construire un aimant qui aura un champ magnétique le plus élevé au monde, de 11,7 Tesla. Je vous rappelle qu'actuellement à l'hôpital, c'est en général 1,7 Tesla. Et vous voyez, ceux qui habitent près de Saclay peuvent voir les grues qui sont en train de construire ce bâtiment, qui sera une énorme installation, que j'espère une installation européenne, avec ces aimants qui vont être installés dans ces très grands cylindres. Il y aura 5 aimants pour faire des études chez l'homme et chez l'animal. Et je terminerai en revenant à Frédéric Joliot et en citant une de ses conférences à l'Académie de médecine sur les applications biologiques des radioéléments. Je voudrais simplement dire que Frédéric Joliot a fait lui-même ses manips de biologie. Il a marqué l'hormone thyroïdienne avec de l'iode 128. Il a fait des injections, c'est le rat. Il était passionné par la biologie. C'est pour ça qu'il a voulu qu'il y ait de la biologie dès l'origine du CEA, à Fontenay-aux-Roses puis à Saclay. Et il a dit en 1943, mais il l'avait déjà dit lors de sa conférence Nobel, les applications biologiques des radioéléments paraissent simples à réaliser, mais en réalité, elles nécessitent une mobilisation importante de matériel et de chercheurs ayant des connaissances variées. En biologie, il est nécessaire d'associer étroitement les activités du biologiste, du physicien et du chimiste. On conçoit tout le bénéfice qui peut être tiré pour ce genre de recherche de l'association de formes de pensée souvent très différentes et se complétant. Et aujourd'hui, où on parle plus que jamais, quand on réfléchit à l'avenir de la recherche en France et ailleurs, de multidisciplinarité, d'instituts de la complexité, je crois que, vous voyez, c'est 60 ans avant, Frédéric Joliot avait tout dit, ce qui montre la difficulté à le mettre en place. Mais c'est clair que c'est ça qui va se faire maintenant dans les 10 prochaines années. Et l'imagerie va jouer évidemment un rôle considérable au niveau de la médecine. Je vous remercie.
Merci, professeur Sirota. Nous allons passer aux questions. Vous avez une question sur la gauche.
Oui, s'il vous plaît, j'aimerais bien que vous nous disiez quelques mots sur les effets destructifs éventuels de toutes ces expériences sur les cellules du cerveau. Merci.
J'ai pas du tout entendu. Je crois que personne.
On entend très mal.
Je recommence. Pourriez-vous nous donner quelques éléments sur les phénomènes destructifs éventuels de toutes ces expériences et de toutes ces méthodes sur les cellules vivantes du cerveau ? Merci.
Bien. Alors évidemment, lorsque l'on fait ce type d'études, il y a auparavant de nombreuses études qui visent à voir les effets éventuels ou l'absence d'effets. Bon. Toutes les techniques pourraient avoir des effets. Je prends l'exemple des ultrasons, dont on fait des millions d'examens par jour et des femmes enceintes ont des examens. Vous savez très bien qu'on nettoie les coques des bateaux avec des ultrasons et donc on peut détruire des cellules avec des ultrasons. Néanmoins, depuis maintenant 50 ans qu'on fait des examens échographiques, aucun effet n'a été tout simplement décelé, tout simplement parce qu'on se situe dans des puissances d'émission et des temps d'examen qui sont très courts. Dans le domaine de la radioactivité, il est clair qu'on injecte des doses qui sont infimes. Justement, c'est ça l'intérêt des positons avec des émetteurs à vie courte, puisque vous savez que puisque la période est courte, on peut injecter une forte dose de radioactivité avec une matière froide très faible. Donc, les effets sont impossibles. Les doses reçues sont très très faibles. En ce qui concerne l'IRM, eh bien là aussi, les effets des champs magnétiques. On fait des centaines de milliers, peut-être probablement plus dans le monde, d'examens IRM par jour à 1,5 Tesla. Aujourd'hui, les appareils à 3 Tesla sont au catalogue des grands industriels. Les 7 Tesla sont en train d'être développés, enfin pas plus que développés, il y en a maintenant déjà une vingtaine qui sont dans des laboratoires. Tout ceci a fait l'objet de multiples études. On sait qu'à 9,4 Tesla, il y a un appareil actuellement à Chicago et un deuxième qui est en installation à Minneapolis. Il n'y a aucun effet, d'où on a bonne raison de penser. Mais encore une fois, c'est parce qu'on pourrait avoir des effets d'échauffement des tissus, etc. Mais on se situe dans des fréquences, dans des séquences qui sont telles qu'il ne peut pas y avoir d'effet. Mais bien entendu, tout ceci est mesuré avant.
Question ? Il y a une question à droite.
Je suis très content de la conférence que j'ai entendue là ce soir et je voudrais que vous me précisiez quelques points qui, pour ma pratique professionnelle, ont d'importance. Est-ce que vous avez été amené à faire des examens chez les sujets conscients et hypnotisés, par exemple, conscients certains sujets subissant des techniques type neuroleptique analgésie avec sommeil ou pas sommeil, voir les effets pharmacologiques des médicaments préconisés par Laborie et voir l'avantage de certaines techniques strictement à l'échelon cérébral, par exemple les techniques d'anesthésie classique, pinto-curare, l'effet indirect des curares sur le cerveau. Je serai très heureux parce que ça complétera ma formation professionnelle. Je vous en remercie par avance.
Bon, nous n'avons pas fait d'études sur l'hypnose, bien que ça pourrait être fait. On avait essayé de le faire il y a bien longtemps, mais à l'époque, on n'avait pas de la technique adéquate. En ce qui concerne le sommeil, il y a eu des études faites, notamment par le groupe de Liège, qui avait fait des belles études il y a un certain temps. Quant aux effets des anesthésiques, alors là, on les connaît très bien parce que lorsqu'on fait des études chez l'animal et qu'on anesthésie l'animal, il est clair qu'il faut d'abord se préoccuper de savoir de l'effet de l'anesthésie avant l'effet de la molécule que l'on veut étudier. Et on sait que l'anesthésie, ça dépend des anesthésiques, modifient notamment le débit sanguin cérébral. Donc c'est clair.
D'autres questions ? Il y a une question au milieu.
Bonjour. Excusez-moi, c'est une question un peu hors sujet puisqu'il s'agit de sénologie et non pas d'imagerie cérébrale.
Il s'agit de sociologie ?
Sénologie, l'étude des seins.
Ah,
est-ce qu'il serait possible d'utiliser le scanner pour les images des seins et non pas la mammographie actuelle qui est qui fait presser énormément la glande mammaire ?
Non, mais actuellement, donc le outre l'échographie, c'est pas le sujet, et la mammographie, ont une nouvelle indication de la tomographie par émission de positons est justement l'étude du cancer du sein. Bon, mais ça n'a rien à voir avec presser le sein, c'est pour avoir une image correcte, c'est une toute autre
chose. Merci.
Une question tout au fond, et ça sera la dernière.
Bonsoir, merci pour votre conférence. Ma question, c'est aussi, je pense qu'elle est hors sujet, je vais quand même la poser. C'est est-ce que le CEA mène une étude concernant les risques du téléphone portable, donc des ondes électromagnétiques, sur le cerveau et sur l'organisme en général? Et aussi, bon, il n'y a pas que le téléphone portable, il y a aussi toutes les antennes relais. Merci.
Bon, actuellement, on n'a pas de programme systématisé sur les effets des ce qu'on appelle les faibles champs électromagnétiques.
André Sirota, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Demain.